Utopode 019, 25 avril 2008. Ma petite reine des neiges de Hugo Bellagamba. En partenariat avec la Maison d'ailleurs et l'association Les Amis de la Maison d'ailleurs. Bonjour et bienvenue à tous. Avant toute chose, un énorme merci à l'AMDA, l'association des Amis de la Maison d'ailleurs, pour son soutien financier, grâce auquel Utopode pourra rémunérer 5 auteurs et 2 traducteurs dans le cadre de ses prochaines émissions. L'AMDA est une association à but non lucratif dont la vocation est de promouvoir et de faire connaître la Maison d'ailleurs, musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires d'Yverdon-les-Bains. Plus d'infos sur le site www.ailleurs.ch. Et aujourd'hui, justement, Utopode vous propose un épisode directement lié à la prochaine exposition de la Maison d'ailleurs, qui aura lieu du 27 avril au 7 septembre prochain et dont le titre est « Polémique, la conquête des pôles par les airs ». Vous l'aurez deviné, la nouvelle du jour, « Ma petite reine des neiges » de Hugo Bellagamba, explore le thème de l'exposition. C'est un texte totalement inédit et spécialement écrit pour votre podcast préféré. La classe, non? Pour une petite biobibliographie de Hugo Bellagamba, qui a déjà été audio-publiée par Utopode, rendez-vous sur notre site, utopode.com, à l'article du 16 juin 2007. Précisons tout de même la parution récente au Mouton électrique d'un ouvrage qu'il a co-signé avec Eric Pichol, Solution non satisfaisante, une anatomie de Robert A. Heinlein, un ensemble d'essais sur l'œuvre et la personne du cultissime auteur américain. Notre lecteur du jour est Philippe Hertig, que les auditeurs du Topode connaissent bien désormais. Et maintenant, gonflez votre ballon dirigeable, mettez le cap sur le pôle Nord et place à la littérature.
Ma petite reine des neiges, une nouvelle de Hugo Bellagamba. Mon histoire commence par un froid matin de décembre, dans la première décennie d'un siècle qui devait voir s'effriter les empires et s'affronter les nations. Frank Doubleday, mon éditeur et ami, l'un des enfants de cette ancienne colonie britannique arrogante et amnésique, vint me trouver à Torquay, dans le comté de Devon, où nous résidions, Carrie, Elsie, John et moi, dans une petite maison face à la mer. Un séjour que je ne goûtais guère, mais qui se prolongeait depuis près de 5 années. Pour y mettre un terme, il m'eût fallu une force dont je ne disposais plus. J'accueillis Effendi comme on le fait d'une brise en plein cœur de l'été. Il avait effectué la longue traversée uniquement pour moi. Pas un seul instant, il ne me vint à l'esprit de lui refuser ma présence. Il avait été le seul à demeurer auprès de nous lorsque ma fille aînée, ma Joséphine, nous avaient été enlevés 2 ans auparavant par la maladie, les courants d'air et les aberrations de la politique d'immigration du soi-disant pays des libertés. Franck avait répondu à mon appel au secours. Il nous avait soutenus, accompagnés dans l'épreuve jusqu'à cette aube funeste de l'hiver 1899, où elle s'en était allée après avoir exprimé son amour pour papa et pour tout le monde. Franck avait fait barrage à la presse, au monde entier, préservant ce qui restait encore de notre dignité. Je ne l'oublierai jamais. Le lendemain de son arrivée à Torquay, je lui proposai une promenade le long de la côte si pittoresque du Devonshire, et il accepta immédiatement. Nous n'avions pas fait 30 pas qu'il me posa la question à laquelle je m'attendais. « Rudyard, « cher ami, vous êtes-vous remis à écrire ?» Ma réponse était prête depuis des mois. « Non, Effendi, j'ai perdu mon Diamond à la mort de ma mieux-aimée. Je les ai perdus tous les deux, ensemble et à jamais. Je n'écrirai plus, il ne faut pas insister. » Nous fîmes encore quelques pas en écoutant le bruit du ressac. Avez-vous jamais rêvé d'explorer les royaumes du Nord ? Me demanda-t-il alors d'un ton faussement anodin. Je suis un voyageur, je l'ai toujours été. J'ai vécu dans de très nombreux pays, l'Inde et l'Angleterre, bien sûr, mais aussi la Birmanie, Singapour, le Japon, Hong Kong et, plus récemment, l'Afrique du Sud, en pleine guerre contre les Boers. Ma sincérité d'écrivain m'interdit d'omettre l'Amérique du Nord, qui me fut cher un temps. Tous ces voyages m'ont grandi, nourrissant mon âme et ma plume. Mais jamais je n'ai exploré les hautes latitudes de l'hémisphère nord. Frank Doubleday est un excellent éditeur et, en réalité, il n'avait nullement changé de sujet. Une expédition jusqu'au cercle polaire nord, mon cher Kipling. Voilà ce que je suis venu vous proposer. Malgré moi, je restais abasourdi. Mais cela prendrait des mois. Une année, peut-être, Effendi. Vous savez bien que je ne peux ni n'entends m'absenter aussi longtemps. Cela dépend surtout du mode de transport. Rudyard, avez-vous aussi perdu toute curiosité pour les innovations techniques? Je le dévisageais. Frank Nelson Doubleday, au nom de la couronne d'Angleterre, de quoi êtes-vous en train de me parler? Il avait déjà gagné, et il le savait. Dans le ton de sa voix, je le perçus sans doute possible. De la conquête du pôle par la voie des airs, Kipling. Comme un oiseau, comme une comète. Mais pour cela, il va falloir que vous acceptiez de rentrer avec moi aux États-Unis. J'ai quelqu'un à vous présenter, et le plus tôt sera le mieux. Le bruit de la mer semblait avoir été brutalement effacé. Comme un oiseau, Effendi. Vous voulez que nous prenions l'un des avions de Clément Ader ou l'un des prototypes extravagants que les frères Wright n'ont pas encore réussi à faire décoller? Grand Dieu, non, nous mourrions instantanément de froid, ou plus probablement écrasés. Ces plus lourds que l'air sont une impasse. Il faut être fou, ou français, pour s'y intéresser. Mais alors, Rudyard, j'imagine que le nom de Ferdinand von Zeppelin vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Je pris mon temps pour lui répondre. Vous envisagez donc le ballon dirigeable? Mais le savant prussien n'en est lui-même qu'au balbutiement, si je ne me trompe. C'est parce qu'il ne dispose pas de la puissance de l'industrie américaine, mon cher, ni des moyens matériels que certains self-made men richissimes peuvent mettre à la disposition des inventeurs les plus audacieux. Vous ai-je jamais dit que, grâce à l'un de mes cousins, j'étais devenu proche de l'homme le plus riche des États-Unis? Vous ne voulez pas parler de John Rockefeller, tout de même? Lui-même? Ne s'est-il pas retiré des affaires il y a plusieurs années? Cela, mon ami, c'est justement ce qu'il a voulu que tout le monde croie. Franck, vous devenez bien trop exubérant à mon goût. Et ce n'est que le début, Rudyard. Avez-vous jamais visité le comté de Summit dans l'Ohio? Ma réponse fut noyée par les embruns, car nous n'avions pas senti le vent se lever. Nous rentrâmes précipitamment. Le lendemain, à mon propre étonnement, je prenais les dispositions nécessaires pour embarquer avec Frank Doubleday. Notre destination exacte, il ne me la révéla que lorsque les côtes de l'Angleterre eurent disparu à l'horizon. Ekron, une petite ville sur la rivière Cuyahoga, dont le monde ne devait jamais oublier le nom. John Rockefeller, que je n'avais jamais rencontré auparavant, m'impressionna autant, sinon plus, que le ballon dirigeable qu'il avait décidé de financer et dont il s'était d'emblée considéré comme un premier passager. Ce n'est pas sa fortune qui me troubla, bien entendu, mais l'acuité avec laquelle il la mettait en branle pour permettre à l'ingéniosité d'autrui de s'appliquer. Cet homme croyait, tout comme moi, à l'indépassable puissance de l'esprit humain. À 60 ans passés, il raisonnait mieux et avec plus de pertinence que nombre de jeunes diplômés formés dans les meilleures universités des deux côtés de l'Atlantique. Sous le ciel bleu-azur de l'Ohio, le jour du vol inaugural du GYR-37, c'est lui que je regardais d'abord, malgré la passion que j'ai maintes fois confessée pour l'objet technique. Frank, lui, dévorait des yeux l'oblongue silhouette métallisée. Le comte Zeppelin n'était pas présent et, à dire vrai, n'avait nulle raison de l'être. Teddy Roosevelt, l'ambitieux président américain, avec l'appui de l'armée pour laquelle il espérait des retombées significatives, avait frappé d'un secret absolu toute l'expérience. Et tant que j'y pense, la générosité toute chrétienne de Rockefeller n'était pas non plus dénuée d'arrière-pensée. Le magnat du pétrole entendait cartographier les terres du Nord afin de préparer de futures expéditions destinées à établir de nouvelles zones de forage. Son attitude sereine, ses bras croisés, cachait une détermination hors du commun et un investissement qui, s'élevant à plusieurs millions de dollars, ne l'était pas moins. Une fois encore, ce fut Effendi qui me ramena à la réalité, déchirant de sa voix de ténor ma rêverie éveillée et m'évitant ainsi de manquer complètement le premier élan réussi de notre aérostat. « Regardez, mon ami anglais, n'est-il pas magnifique? Si grand qu'il occulte le soleil, nous allons explorer l'univers blanc dans son ventre argenté. Est-ce que vous vous rendez compte, Rudyard? Nous écrivons une page de l'histoire, » conclut-il avec malice. Je souris. L'éditeur en lui était toujours à l'affût de sa proie. Le ballon dirigeable, unique au monde, était en avance d'une bonne décennie sur tous les projets concurrents. Et, techniquement, c'était une merveille. D'une longueur totale de près de 700 pieds pour un diamètre de 85, il représentait un volume d'hélium de quelque 2 720 000 pieds cubes. Il restait cependant extrêmement maniable grâce à 6 moteurs développant une puissance cumulée de 2000 chevaux vapeur. Durant les essais, sans vent contraire, sa vitesse avoisinait les 50 nœuds en croisière et les 70 à pleine poussée. Son enveloppe, en aluminium, était tendue sur une armature d'acier. La nacelle qui s'y accrochait, tel un poisson pilote, était prévue pour abriter 5 personnes avec tout leur équipement et des vivres pour plusieurs semaines. Mais son autonomie restait conditionnée par le ravitaillement des moteurs. Et même si Rockefeller avait déclaré vouloir embarquer autant de réservoirs de carburant que possible et filer droit, nous réalisâmes vite qu'il nous faudrait faire des escales si nous espérions vraiment gagner le pôle Nord. Lors de ce premier vol, il n'y avait à bord de l'engin que son pilote attitré, un certain Tripp, héros de la guerre hispano-américaine dont nous ne devions jamais connaître le véritable nom et qui avait été directement mandaté par Teddy Roosevelt, ainsi qu'Ezra Barlow, l'un des ingénieurs qui avait conçu la nacelle. Le ballon gagna de l'altitude et, sans effort apparent, en dépit d'un vent latéral assez insistant, entreprit de décrire autour de nous un cercle d'environ 2 miles de diamètre. John Rockefeller nous avait réservé une énième surprise. Au deuxième passage du dirigeable, alors que celui-ci descendait un peu et nous montrait toute l'ampleur de son flanc droit, un large pan de sa toile illuminée se froissa et glissa dans le vide, manquant de peu les hélices de l'un des moteurs. Nos cœurs de spectateurs ratèrent un battement, le temps de réaliser qu'il ne s'agissait nullement d'une déchirure. La chute de la pelure argentée avait simplement permis de révéler les lettres noires, démesurées, peintes au pochoir sur la robe bel et bien intacte de la demoiselle des airs, « The Goodyear and Rockefeller Corporation ». Et tout près de la proue avait été ajouté un grand drapeau américain accompagné du sigle USA. Je dois avouer que ma fibre patriotique en fut quelque peu affectée. Un projet tel que celui-ci n'aurait pas dû être placé sous l'égide d'une seule nation, en particulier la plus jeune et la plus inexpérimentée de toutes. D'un autre côté, c'était celle de Frank et de John. Et, d'après ce que j'avais compris, le président Roosevelt avait l'intention de s'appuyer sur cette nouvelle invention, une fois qu'elle serait perfectionnée, pour permettre à son pays de rayonner partout dans le monde. Je dois admettre qu'un tel impérialisme avait quelque chose de fascinant, comme si l'ancien monde allait survivre, finalement, grâce aux avancées de la science de demain. Le GYR-37 vola 6 heures d'affilée sans que le moindre incident ne fût à déplorer. Après cela, il y eut quelques tests d'amarrage et de décollage d'urgence, mais ils durèrent peu, car tout le monde était impatient. Nous allions droit vers l'inconnu. Le dirigeable n'avait jamais été testé dans des conditions climatiques extrêmes. Ses moteurs étaient à peine rodés. Naturellement, l'entreprise était vouée à l'échec. C'est bien pourquoi elle réussit, au-delà de toutes nos espérances. Nous partîmes moins de 3 semaines après le vol inaugural, pointant droit vers le nord magnétique. Nous étions 5. L'armateur, l'ingénieur, l'éditeur, l'auteur et, bien entendu, le pilote. Rockefeller avait prévu d'atteindre le pôle en 10 jours et 3 escales au maximum. La nacelle était extrêmement bien calfeutrée, pensée pour préserver l'équipage des froids intenses tout en lui offrant le confort d'une première classe ferroviaire, surtout lorsqu'il s'agissait de dormir. Partout, le velours piqueté le disputait aux reflets dorés du cuivre. Toutefois, il n'y avait pas de compartiment. Notre habitacle décrivait un espace d'un seul tenant, à peu près équivalent à celui d'un wagon de train, ponctué de 6 épaisses poutres d'acier verticales et obliques destinées à en rigidifier la structure. Tout l'arrière était occupé par nos équipements savamment encordés, les instruments de mesure les plus fragiles soigneusement répartis dans des boîtes, tout l'avant par le poste de pilotage, 2 sièges contemplant des myriades de cadrans où je reconnaissais un altimètre, un baromètre, une boussole et, peut-être le plus important de tous, un thermomètre. Sur une grande table, dans la partie centrale de la nacelle, entourée de nos sièges couchettes, se trouvait une superbe carte du cercle arctique, la plus précise de l'époque, soigneusement annotée. Mais le trait de génie de Barlow était surtout d'avoir pourvu la nacelle de larges baies d'observation. Le verre, d'un seul tenant de la proue à la poupe, était légèrement fumé et se galbait vers le bas. Ainsi, nous pouvions à loisir nous pencher pour tout observer jusqu'au sol qui défilait juste au-dessous de nous. Nous survolâmes d'abord le lac Errier par le travers, puis le lac Huron, que nous suivîmes sur presque toute sa longueur. Déjà, il me semblait avoir recueilli la matière d'un roman d'aventure. Ces lacs étaient si grands, si purs. Des larmes de Dieu émues d'avoir créé autant de beauté. Bien que nous fussions capables, d'après Tripp, de parcourir plus de 1500 miles d'affilée, nous fîmes notre première escale tout près de Sudbury, à quelque 250 miles à l'ouest d'Ottawa, descendant avec le jour vers les terres du Canada. Là, des hommes de la Standard Oil avaient installé l'équipement nécessaire pour nous ravitailler en carburant. Ils firent le plein jusqu'à atteindre le poids critique. Le travail fut effectué à une vitesse qui ne cadrait pas avec leur mine décontractée. Nous fûmes en mesure de repartir au lever du soleil, obliquâmes légèrement vers l'ouest et passâmes de l'Ontario au Manitoba sans toutefois pénétrer en Saskatchewan, car nous voulions couper plus rapidement la gigantesque baie d'Hudson. Nous ne survolerions donc pas le Groenland, dont je m'étais pourtant permis de suggérer qu'il eût constitué une escale inoubliable. Les 3 jours qui suivirent, nous discourûmes beaucoup tout en jouant parfois aux cartes. Adoptant spontanément le féminin, nous baptisâmes finalement notre aéronef Eolia, espérant nous attirer la clémence des vents de haute altitude. Nous nous considérions un peu comme ces enfants à naître, tous à l'abri, bien au chaud dans son giron, blotti dans son ventre rebondi qui diaprait la lumière du levant en myriades de rayons aveuglants. Je pris quelques notes sur mon carnet. Les forêts du Canada, vues du ciel, donnaient l'impression d'être projetées dans un autre monde qui n'aurait jamais connu l'homme. On imaginait aisément 1000 espèces d'animaux fabuleux se les partageant. Nous fîmes une 2e escale après avoir longé le grand lac de l'Ours et atteint la côte. Tripp n'était pas très content car nous avions dérivé trop à l'ouest et il voulait refaire ses calculs avant de quitter à jamais les terres du nord-est canadien. Effendi et moi rendîmes visite au peuple esquimau dans un endroit que les autochtones appelaient Kugluktuk. Ce fut une soirée mémorable, sans doute l'une des plus magiques de ma vie. Effendi tomba lui aussi sous le charme de ce peuple. Nous assistâmes à des concours de chants qui, à notre immense surprise, se révélèrent être des tribunaux judiciaires avec jury, délibération et peine immédiatement applicable. La plus élevée nous sembla être l'exil, qui en ces terres blanches équivalait sans doute à la mort, loin de la protection de la communauté. Nous mangeâmes du poisson cru et dormîmes à même le sol gelé sans pourtant souffrir du froid intense qui régnait à l'extérieur. Les Inuits, comme ils se désignent eux-mêmes, ne furent nullement impressionnés par notre dirigeable. L'un d'eux voulut même l'emprunter pour découvrir de nouveaux territoires de chasse. Au moment de notre départ, un jeune chasseur qui m'avait vu prendre des notes dans mon carnet durant le dîner s'approcha de moi et m'offrit un collier en dents de phoque. J'acceptai sans doute trop hâtivement, car il fallut lui donner quelque chose en retour, et il avait une idée bien précise de ce qui convenait. Ainsi, mon carnet en peau de taupe devint sa propriété. Franck s'empressa de me donner le sien. Lorsque je l'ouvris et réalisai qu'il était vierge, je sus qu'il n'y avait plus de limite à sa ténacité. Le lendemain, cinquième jour depuis notre départ, nous survolâmes l'île Victoria, fleuron de l'archipel arctique dont la blancheur me fit venir les larmes aux yeux. À ce stade, je réalisai, en croisant le regard de John Rockefeller, que nous entrions déjà dans la légende. Cinq hommes qui, sous le ventre d'acier d'hélium d'un plus léger que l'air expérimental, conjuguaient le rêve d'Icare avec celui d'Asgard. Nous avions parcouru 1 550 miles depuis Kugluktuk et franchi depuis longtemps la limite de la neige lorsque je sentis, dans mon ventre et sous mes pieds, que la course de l'Éolia s'infléchissait. Nous descendions, alors que j'avais entendu Tripp annoncer quelques minutes auparavant que nous allions prendre un peu d'altitude. Inquiet, je me précipitai vers les baies d'observation en posant ma tasse de thé brûlant sur la table. Par son obliquité, le liquide sombre prouvait la justesse de mon ressenti. J'eus du mal à apercevoir le sol tant était épaisse la couche de glace qui, depuis près de 2 jours à présent, s'était agglutinée sur le verre et déformait toutes les perspectives. Frank Doubleday me rejoignit sans dire un mot, mais à ses sourcils froncés, je vis qu'il s'efforçait de trouver lui aussi un repère. Selon notre vitesse et notre cap, nous étions sur le point de dépasser la pointe nord de la grande île d'Ellesmere, situé à environ 6 miles à l'ouest de notre position. En dessous de nous devait s'étendre l'océan glacial arctique depuis quelque 300 miles. Mais l'île, aussi bien que les eaux gelées, demeurait invisible. Tout l'extérieur n'était qu'un dégradé de blanc plus ou moins sale. John Rockefeller et Ezra Barlow s'étaient quant à eux précipités vers l'avant. « Trip !» ordonna l'armateur en s'accrochant au siège du pilote. « Vous savez ce qu'il faut faire. Enclenchez la chaufferie interne du ballon. Maintenant !» Au-dessus de ma tête, j'entendis naître un ronronnement puissant qui n'était pas celui des moteurs. « Ne vous inquiétez pas, » dit Rockefeller en se tournant brièvement vers nous. Pourtant, la sensation de chute au ralenti continuait. Je fis 2 pas vers le poste de pilotage où Ezra Barlow, à présent assis à la place du copilote et penché sur les cadrans, semblait aussi frénétique qu'eux. Sa main s'agitait sur une liasse de pages blanches couvertes de calculs manuscrits. « John » criai-je en oubliant la retenue qui sied un Anglais, fut-il né aux Indes. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chaufferie ?» Rockefeller leva les yeux et, pendant une seconde, je crus qu'il allait me congédier, comme il l'aurait fait d'un comptable incompétent. « Monsieur Kipling, c'est à cause de la glace. » Il pointa un doigt vers le haut. Elle s'accumule sur le ballon, nous alourdit et nous tire vers le bas. C'est aussi simple que ça. Mais bien entendu, cela a été prévu par mes ingénieurs. Nous allons chauffer la structure métallique de l'éolia de l'intérieur afin que la glace ne tienne pas sur son enveloppe aluminée. Vous comprenez? J'acquiesçais tout en regardant Trip tirer à lui le manche sans effet sensible sur notre chute. Mais notre ballon n'est-il pas plein de gaz? Ne risque-t-il pas d'exploser? Si c'était de l'hydrogène, Kipling, nous serions déjà morts. Une comète dans le ciel blanc. Mais nous avons choisi l'hélium. La portance en est moindre, il en faut plus, mais c'est un gaz pratiquement inerte, insensible aux changements de température et, bien entendu, rigoureusement ininflammable. Du coup, chauffer l'enveloppe et la structure du ballon n'a aucune conséquence directe sur lui. Simplement, il va falloir du temps avant que l'ensemble de la structure n'atteigne la température désirée. D'ici là, nous allons continuer à perdre de l'altitude, mais plus lentement. Trip sait comment gérer cela, ne vous inquiétez pas. Il me restait une question. Pourquoi n'avoir pas déclenché la chaufferie dès que nous avons passé la limite du cercle arctique, alors? C'est Trip qui me répondit, sans lever les yeux de sa route. Pour une raison simple, ami écrivain, nos réserves de carburant sont limitées. Et la chaufferie s'abreuve au réservoir de nos moteurs. Une envie de sourire totalement incongrue monta en moi. Quelle belle preuve, une fois encore, de l'extraordinaire capacité des hommes à s'adapter et à coordonner leurs efforts. Rudyard, par tous les dieux, regardez! On voit la banquise, là, tenez! C'était la voix d'Effendi qui, lui, n'avait pas bougé de son poste d'observation. Attiré comme un aimant, je me retournai, rejoignis la baie d'observation bombée et jetai mon regard vers le bas sans réaliser que, déjà, au coin de la vitre, la glace coulait. Là-dessous s'étendait à présent un univers qu'aucun homme avant nous n'avait jamais contemplé depuis les hauteurs divines. À perte de vue, une mer de glace à la temporalité propre, infiniment plus lente que celle des bipèdes interrogatifs que nous étions, vivait sa vie en toute quiétude. Je pouvais en imaginer le rythme centenaire, voire millénaire, à défaut de le ressentir. Jamais je n'avais rêvé d'une telle chance. Poser les yeux sur un univers aussi peu humain, aussi intensément sauvage que celui-ci. Il y avait des plaines à la blancheur cotonneuse, rehaussées de ci, de là par des monts agressifs d'un bleu irréel, concentrés de froid qui n'avaient jamais connu, ni même approché, le zéro de l'échelle de Fahrenheit. Il y avait des fissures, larges comme certaines avenues de Londres, qui racontaient une histoire remontant à l'aube des temps. Elle faisait comme des rides à la surface d'un visage sage. Je compris en mon fort intérieur que si nous contemplions le nord, la mer éternelle, quant à elle, plongeait sa blanche écume au plus profond de nos êtres, nous révélant, loin de toute cité, notre nature essentielle, celle des enfants de l'eau. Les mots naissaient en moi, à présent, comme les flots d'un torrent furieux qui, après des années de retenue, parvient à rompre toutes ses digues. Ils apparurent juste avant que nous n'eussions atteint le pôle magnétique, emmitouflés dans le ventre de notre mer d'hélium et d'acier. Et, alors que nous pensions conquérir un nouveau territoire pour la gloire de l'humanité, nous fûmes bien obligés de reconnaître leur souveraineté, première et impartagée, sur le monde blanc. Seigneur quadrupède, galopant éperdument à la surface des vagues immobiles et moissonnant sans rival les eaux glacées qui, de loin en loin, leur étaient accessibles, ils étaient les véritables propriétaires du pôle Nord. Et l'étrange oiseau d'argent qui perturba, pour quelques heures à peine, le silence respectueux de leurs cieux ne les intéressa guère. S'ils nous avaient vus en chair et en os, sans doute ne nous auraient-ils considérés que comme des proies. « Des ours blancs !» s'écria John Rockefeller en les pointant du doigt. Tripp avait réduit au maximum l'altitude à l'approche du pôle et positionné les moteurs sur un ralenti à peine soutenu. Le magnat du pétrole était un fin observateur, certes, mais en l'espèce, il se trompait. Ce n'étaient pas des ours polaires, c'était bien plus que cela. C'était la vie invincible qui courait, là, sous nos pieds, d'est en ouest, épousant la course du soleil, si bas sur l'horizon. Les animaux, dans leur instantanéité, m'ont toujours apporté un réconfort que nul parmi mes semblables n'est capable de donner, spontanément ou pas. La vie sauvage, je l'ai glorifiée autrefois dans mes livres de la jungle. Mais à présent que je me trouvais à nouveau en prise directe avec elle, je vis à quel point mes romans étaient loin de la vérité. Ils n'étaient guère que 6 ou 7. Il y avait 2 jeunes parmi eux, caracolant en tête, et un ancêtre, ou un blessé, qui traînait un peu. Ils exprimaient tellement de puissance. 10 millions de fantassins au service d'un empire millénaire n'auraient pas été plus terrifiants. À coup sûr, ces ours polaires détenaient une vérité que nous avions depuis longtemps oubliée, peut-être depuis la naissance de l'écriture et de l'État. « Nous atteignons le pôle, maintenant !» cria soudain Tripp. Autour de moi, ce furent des explosions de joie, des cris de victoire, des embrassades viriles exprimant la fierté de la conquête. Tripp, Ezra, John et Frank se prirent par les bras et tournèrent dans la nacelle. Je ne pris guère part à ces effusions et, étonnamment, aucun d'eux ne chercha à me les imposer. Je restai à les observer, eux, les rois du Nord, que nos cris laissaient indifférents. Puis soudain, les mots de Joséphine me revinrent en mémoire. « Allons-y, papa. Oh, allons faire n'importe quoi. Papa, du moment que c'est toi et moi, et qu'on va vraiment explorer, et qu'on ne rentrera pas avant l'heure du thé. Voilà tes bottes, je te les ai apportées, et voilà ton chapeau, et ta canne, et voilà ta pipe et ton tabac. Oh, viens, sortons d'ici, vite. » Et je réalisais à cet instant, à cet endroit, sur l'axe de la terre qui s'ancrait dans le ciel, que Joséphine, ma mieux aimée, était là, vibrante de vie, courant et riant avec les ours sous mes yeux. Elle brillait comme une étoile dans le ciel pur, et elle explorait, oui, elle explorait un territoire aux merveilles infinies. La main chaleureuse de Frank Doubleday se posa sur mon épaule. « Rudyard, mon ami, je t'en prie, promets-moi que tu raconteras cela dans un de tes prochains livres. » Je levai mon regard vers lui sans laisser mon esprit quitter Joséphine. « Oui, Effendi, je le raconterai. » Il laissa s'exprimer son âme de pionnier américain. Je ne lui ai pas menti. Cette aventure, je l'ai contée, puisque vous venez de la lire. Mais vous devez savoir, cher lecteur, que pour une fois la réponse n'est pas dans les lignes que je vous laisse. Elle est là-bas, sur la banquise éternelle, et je ne la quitterai plus jamais, ma petite reine des neiges.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Une nouvelle un peu particulière annoncée aujourd'hui. Après 1 an et demie de bons et loyaux services, Mark Tiefenauer, le coproducteur du Topod, a décidé de prendre sa retraite anticipée, désireux d'avoir plus de temps à consacrer à ses 2 grands amours, sa famille et la poésie. Je reste donc seul maître à bord du Topod. Mais rassurez-vous, l'aventure continue de plus belle et tous les projets présents et futurs restent à l'ordre du jour. Je prends donc cette occasion pour faire un gros bisou à Marc, le remercier du boulot monumental qu'il a accompli depuis le début du Topod, et bien sûr, lui souhaiter tout plein de bonnes choses pour la suite de ses projets. Hasta la victoria siempre, compañero! Suite au départ de Marc, Utopod va connaître quelques petits changements d'ordre cosmétique. Tout d'abord, le site. Je ne suis de loin pas aussi brillant que Marc en informatique, et c'est rien de le dire. C'est pourquoi je compte passer à une version beaucoup plus épurée du site, qui, comme certains l'auront remarqué, est en fait un blog. Une nouvelle version plus basique est donc prévue pour bientôt. Deuxièmement, pour gagner du temps et pour pouvoir me concentrer sur l'essentiel, à savoir la qualité des textes, des lectures et du son, je vais également renoncer aux illustrations qui accompagnent chaque article, et ce à partir d'aujourd'hui même. Et oui, la recherche de ces images me prend malheureusement un temps fou. Il faut trouver des visuels qui collent à la thématique de chaque nouvelle, s'assurer ensuite que l'illustration est libre de droit, la traiter sur Photoshop pour la mettre au bon format et ensuite la poster sur le blog. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est un gros boulot. Dorénavant, le blog du Topod aura donc un aspect de blog de podcast, tout simplement. L'essentiel étant l'émission audio, comme dans tous les bons podcasts anglo-saxons. Et enfin, un troisième changement qui coule de source, celui-ci. Dorénavant, vous n'entendrez plus que ma voix dans les intros et les épilogues. Les mails de lamentations et pleurés ou vidéos de Alléluia hystérique sont à adresser à lucas@utopod.com. Les bières, on peut me les payer à la prochaine convention française de SF ou aux prochaines Utopiales. Non, plus sérieusement, ça me ferait plaisir de recevoir vos mails, encore plus maintenant que je travaille en solo. Écrivez-moi pour me faire un petit coucou, pour me faire des critiques, pour me dire ce que vous pensez du podcast, bref, tout ce que vous voudrez. lucas@utopod.com. Et n'oubliez pas de parler d'Utopod à vos collègues, amis, parents, etc. Chaque nouvel abonné est précieux. Ben voilà, je vous souhaite tout plein de belles découvertes littéraires et vous dis à très bientôt pour la suite du voyage. Bye bye!